on est décidé à bloquer ces travaux autant de temps qu'il faudra. Et ça commence par cet été et ça ira sans doute beaucoup plus loin.
Occupy la Meuse, bonjour, tu es bien là?
Absolument, oui, Michel, pour l'occupation de la forêt libérée de Mandre-en-Barrois.
Alors, la forêt de Mandre-en-Barrois. Alors, Mandre-en-Barrois, depuis ici, depuis Toulouse, on se demande où c'est, même la Meuse. Il y en a qui vont dire, mais c'est où la Meuse? Je sais qu'il y a eu une bataille il y a longtemps. Si tu peux nous situer plus précisément, c'est un coin quand même assez perdu, un petit peu de France, un petit peu isolé.
Ouais, bon, perdu, oui, c'est un département assez peu peuplé, d'environ 140-150 000 habitants, c'est environ 2-3 heures de Paris en TER, c'est, voilà, et c'est un département dans lequel, depuis une vingtaine d'années, les gouvernements successifs veulent implanter une méga poubelle nucléaire pour enfouir les déchets ultimes et les déchets de moyenne activité de nos chères centrales nucléaires. C'est ce qu'on appelle le projet CIGEO, pour Centre Industriel de Stockage Géologique. Et le but, c'est d'implanter dans ce territoire hyper désertifié en termes de population, hein, 6 habitants au kilomètre carré, d'implanter 100 000 mètres cubes des déchets ultimes à 500 mètres sous terre, dans 300 kilomètres de galeries, et ensuite de reboucher le couvercle en espérant que pendant 100 000 ans, il n'y aura aucun problème, aucun rejet radioactif, aucun incendie. Et avec le tout pour 150 ans de mise en œuvre industrielle. Donc un projet, l'un des plus gros projets industriels d'Europe dans la Meuse, voilà. La Meuse et la Haute-Marne, plus exactement.
Alors, un énorme projet, donc, comme tu dis, industriel à faire. Les chiffres ont été, t'en as sorti beaucoup et c'est assez assommant. Si tu peux nous redire, donc, les enfouir à quelle profondeur et des galeries de quelle dimension?
Ouais, bon, je vais donner quelques chiffres, puis après, on va aller sur des trucs plus enthousiasmants, parce que c'est vrai que sinon, on a envie de
mais c'est la vérité, c'est ce qu'ils veulent faire.
Donc, c'est en gros, ça serait environ entre 80 000 et 100 000 mètres cubes de déchets haute activité vie longue et moyenne activité vie longue, enfouis à 500 mètres sous terre, dans une couche d'argile profonde, sur environ 300 km de galeries. Qui accueillerait ces déchets.
300 km, d'accord.
Ouais, pour, voilà, dans l'espoir que pendant environ 100 000 ans, voilà, avec une espèce de promesse de risque zéro pendant 100 000 ans, voilà, bien sûr, il n'y a absolument aucun chiffrage, aucun financement un petit peu crédible. Voilà, certains disent 25 milliards, d'autres disent 40, d'autres disent 50. En fait, on ne sait absolument pas. Et voilà, c'est un projet complètement dingue qui a été rejeté. Absolument partout ailleurs, dans tous les autres départements où ils ont essayé de l'implanter dans les années 80. Enfin, les années 80, ils ont essayé de mettre des poubelles nucléaires dans le Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres, dans le Gard, etc. Ils ont à chaque fois été accueillis par une opposition de terrain extrêmement virulente, à coups de caillasses, à coups de bottes de paille enflammées, des paysans qui tiraient au tromblon sur les hélicoptères qui venaient en repérage. Donc, ils se sont rabattus dans les années 90 sur un territoire avec une très faible densité de population et ils ont... en une vingtaine d'années, réussi à implanter d'abord ce qu'ils ont appelé un laboratoire de recherche. Ils sont arrivés, en fait, sans annoncer directement un projet de poubelle nucléaire. Mmh. Ils ont implanté un laboratoire de recherche géologique sur le comportement des roches, prétextant avec le bel argument de la science et du progrès, qui était en fait un fauné pour implanter plus tard le projet de poubelle. Et donc là, en ce moment, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le projet de poubelle CIGEO n'a pas encore d'existence légale au sens strict, mais les travaux préparatoires à son implantation sont déjà en train de commencer, notamment dans la forêt de 220 hectares qu'on est en train d'occuper.
Alors, vous êtes en train d'occuper et de la défendre, puisque ce que j'ai appris avec consternation, c'est que les déboisements, enfin la déforestation, ils commencent à la faire en toute illégalité aussi.
C'est ça. Donc, en gros, il faut comprendre que donc l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc c'est une agence qui est une agence d'État financée par les producteurs de déchets, donc EDF, CEA et Areva.
Avec nos sous.
A déjà une implantation. Oui.
Avec nos sous quand même, hein, avec nos sous, tout ça, hein, faut le rappeler.
Et a déjà une implantation en surface, donc autour de son laboratoire, qu'elle étendrait plus tard à une grande zone de 300 hectares pour acheminer les flux de déchets radioactifs, et une deuxième zone qu'elle cherche à s'approprier en ce moment même, qui serait une zone en gros sur 250 hectares où elle creuserait des gigantesques puits pour ventiler les colis de déchets entreposés 500 mètres en dessous, acheminer du matériel, etc. Et donc cette deuxième zone hyper stratégique pour elle, c'est cette forêt dans laquelle effectivement, depuis mai 2016, c'est-à-dire depuis deux mois, elle a commencé des travaux. les déboisements illégaux, des poses de clôture sur les 7 km de pourtour de la forêt, les travaux de forage, le tout avec énormément d'inégalités, ce qu'on a d'ailleurs attaqué depuis le 22 juin devant le tribunal.
Alors le 22 juin devant le tribunal, donc qui attaque ? Qui mène la plainte ?
Ouais,
qui est partie civile ?
Les plaignants exacts, en gros, il y a des habitants de Mandres, il y a un certain nombre d'associations parmi lesquelles il y a le réseau Sortir du Nucléaire, l'association Burstop, etc. Donc voilà, c'est un continuum entre habitants de Mandres en Barrois et des associations en soutien.
Donc,
c'est d'ailleurs, en fait, il faut comprendre, donc là, c'est revenir quand même un petit peu sur... On a déclaré donc l'occupation dimanche 19 juin à partir de 17h. Donc juste avant, on avait fait une grande manifestation à 200-250 personnes. On est arrivé avec deux tracteurs de paysans du coin, arrivés sur la zone de chantier. Donc ils avaient implanté des grandes barrières, clôturé une espèce de plateforme de chantier avec des barbelés, avec des machines, etc. Et on est arrivé à 250, on a enlevé, démonté toutes les barrières, on a scié et tronçonné toutes les clôtures qu'ils avaient déjà implantées, cisaillé les barbelés dans une espèce d'état d'esprit joyeux, avec un cortège très divers, des personnes jeunes, des vieux, des gens au visage masqué, d'autres gens au visage découvert, et des gens voilà qui installaient le pique-nique, la cuisine, et d'autres qui commençaient à construire un grand préau de 50 mètres carrés. Et voilà, et donc dans la foulée de cette belle manifestation très joyeuse, il y a d'ailleurs réhabiliter la forêt selon nos termes, c'est-à-dire enlever la présence de l'Andra, on a déclaré l'occupation. Et cette manif, elle était en fait pensée, elle est la continuité en fait d'une lutte des habitants et habitantes de Mandres-en-Barrois contre l'échange de leur forêt communale qui dure depuis près d'un an. Voilà, faut comprendre que l'Andra, en gros, ça fait plusieurs années qu'elle convoite cette forêt, donc un bois communal de 220 hectares pour la zone dont je vous ai parlé. Mmh. Elle a essayé de se l'approprier d'abord en 2013 auprès des habitants avec des propositions de l'échange absolument dingues. Donc je vous passe les détails, mais voilà, des promesses des promesses fiscales de 1 million d'euros supplémentaires, des promesses d'emploi pour tous les habitants du village de Mandres sur 150 ans, qui est la durée mise en œuvre du projet, et l'échange contre 3 autres massifs. Et en 2013, la majorité des habitants de la commune avaient répondu non à la consultation.
Tout à leur honneur.
On avait tenu compte et il n'y avait rien eu. Et en juillet 2015, donc il y a un an maintenant, l'Andra est revenu à la charge. Cette fois-ci, le conseil municipal n'a pas jugé bon de faire une consultation et a entériné l'échange à 6h du matin par 7 voix contre 4. Donc depuis ce moment-là, les habitants de Mandres, épaulés par des soutiens, associations, collectifs, ont lancé d'abord une procédure de recours gracieux auprès du maire et du préfet pour faire annuler, disons, la délibération d'échange. Puis, depuis décembre 2015, un recours au tribunal administratif contestant la délibération. Mais ce recours n'est pas suspensif, ce qui explique donc que depuis mai, il y a des travaux et qu'on en soit du coup arrivé, dans la continuité de cette lutte, à des actions de sabotage collectif et d'occupation maintenant.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, on s'aperçoit que la loi travail qui est en train de passer, il y a des écarts extraordinaires que peuvent se permettre les gens qui sont dans le nucléaire. Ils ont du pognon à lâcher d'une manière délirante. On peut aussi noter que la commune de Bure a été quand même, on va dire, achetée un petit peu, et depuis quand même une vingtaine d'années, qu'énormément de travaux ont été financés, mais d'une manière délirante. Comme tu dis, dans un endroit perdu comme tout, ils ont des équipements de dingue, Bure. Des équipements publics.
Oui. Alors, bon,
c'est quand même fou, quoi.
Disons qu'il y a des jolies salles des fêtes, des jolis lampadaires rouges tout neufs, des beaux trottoirs bien propres, des façades de mairie ou d'église toutes refaites à neuf. Voilà, c'est des petites touches comme ça dans les villages qui attestent qu'effectivement, il y a des enveloppes financières extrêmement conséquentes qui sont distribuées chaque année au département. Donc, c'est 40 millions pour la Meuse et 40 millions pour la Haute-Marne. Hein. Donc, c'est des enveloppes qui sont pas négligeables et qui transitent par le département, puis par les communautés de communes. Et donc, effectivement, favorise hautement l'acceptabilité d'un projet comme ça, quoi. Ça, c'est clair. Donc, oui, dans le paysan, c'est clair que on voit des salles des fêtes, ça finance aussi des entreprises, ça finance un certain nombre de choses qui lubrifie, on va dire, l'implantation de ce projet.
Et d'autre part, ce que tu dis également, qui est très intéressant, parce qu'on a suivi très fortement, tu penses bien ici, l'occupation donc contre le barrage de Sivens, on a suivi également, bien entendu, ce qui s'est passé à Roibon, ce qui se passe toujours, ce qui se passe toujours à Notre-Dame-des-Landes. Et là, ce que tu énonces, j'aimerais bien, donc, il faudra qu'on y aille voir, de toute façon, il faudra tous qu'on s'y rende, je pense, cet été, hein, à Bure. Et notamment, ce que tu dis, cette confluence, cette convergence entre des personnes cagoulées, parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de occuper tout en pouvant agir, en fait. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, le flicage va très, 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 très loin. Et d'autres gens, très plus, on va dire, citoyennistes, qui, eux, viennent visage découvert. Et comment ça se mélange, tout ça, chez vous, là ?
Ben, ça se mélange de manière plutôt heureuse, là, depuis une dizaine de jours. Alors, même avant l'occupation du 19, c'est-à-dire que depuis le 9 juin, en fait, il y a eu des actions directes contre le blocage des travaux. Il y avait déjà eu une première action qui avait démonté les barrières début juin de cette plateforme de chantier, avec déjà des balades assez mélangées. Hein. Mmh. Et là, voilà, on continue. En fait, voilà, tout ça, ça tient au lien fondamentalement entre les gens. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si on reste effectivement sur des postures politiques assez identitaires, du radical d'un côté avec sa cagoule et des postures fantasmées, hein, du radical d'un côté, du citoyenniste de l'autre avec sa pétition et sa réunion, on n'avancera à rien. Et qu'en fait, la richesse de ce qui peut se passer ici, comme dans plein d'autres endroits, comme dans les cortèges de tête à Paris ou ailleurs, où plein de gens se mélangent, c'est la rencontre, le lien. Et que là, dans cette dernière année, il y a eu la rencontre avec quelques habitants de Mandres-en-Barrois qui étaient décidés à pas se laisser faire. Et il y a eu un campement l'été dernier, un campement anticapitaliste et anti-autoritaire.
On en a
qui a brassé pas mal de monde sur place. Ouais. Il y a eu des gens qui continuent qui s'installent sur place depuis des années autour de la maison de résistance à la poubelle de Bure, qui est une base locale d'auto-organisation. Et bien avant qu'on parle de ZAD, etc., il y a depuis 10 ans une maison qui sert de point de ralliement dans le village de Bure.
Donc
il y a tout un brassage. Ouais. Ouais. Maison de résistance. Ouais. Mm-hmm. Donc, il y a tout un brassage entre plein de gens, voilà, qui est un peu différent. Et c'est sur la texture, en fait, de ces liens et de ces rencontres, au-delà des postures identitaires plus ou moins fantasmées, qu'on construit une forme de confiance qui peut, voilà, mener à ce que chacun se sente un peu à sa place, comme dimanche dernier. Et voilà. Et après, c'est des discussions, une forme de discussion collective sur comment est-ce qu'on arrive à se tenir ensemble, à se sentir à l'aise, c'est quoi nos limites, comment, voilà. Après, la zone est grande, hein, donc y a moyen de faire des choses assez différentes et que ça cohabite pas mal ensemble. Ça se fait pas sans tension et sans friction, comme dans plein d'autres
comme dans toute
endroits,
lutte,
mais là, ces derniers temps, en tout cas, ouais. C'est plutôt assez euphorisant.
D'accord. Est-ce que aussi, la question que je me pose comme ça un petit peu là, c'est est-ce que, comment dire, l'énormité du méfait là qu'il compte faire, l'Andra et CIGEO, est-ce que ça remue d'une manière différente les gens du coin? Parce que bien sûr, personne veut avoir une déchetterie à côté de chez soi, personne veut avoir un truc dégueulasse à côté de chez soi, mais là, il s'agit quand même de déchets radioactifs, les seuls vrais déchets en fait que l'humain ait produit absolument, puisque tout le reste en fait se recycle là, de près ou de loin, même le plastique, au bout de 200 ans, il n'y en a plus. Tu es là ? Toujours ? Allô ? Michel ?
Oui, je suis là, j'écoute. Oui, j'écoute.
Je disais, donc même effectivement, les déchets effectivement, du plastique vont un jour effectivement finir peut-être par se résorber quand ils auront tué toutes les baleines, mais les déchets radioactifs, là, c'est de milliers et de milliers d'années qu'on parle. Quelle est la prise de conscience des gens autour de toi et plus loin ?
C'est difficile de généraliser, en fait, d'avoir un grand discours, de savoir si les gens sont conscients ou pas. D'une manière générale, je ne sais pas comment dire. Mmh. Comment on peut dire ça? Je ne peux pas avoir un point de vue général sur les gens autour, les gens dans le département. Tout ce que je peux dire, c'est que dans les années 90, il y avait des grandes manifestations, une forte révolte, que partout ailleurs, ces projets-là se sont faits, voilà, comme je le disais tout à l'heure, repousser, chasser de manière instinctive à toute caillasse, avec toute la population. Oui. Et qu'on a eu un petit peu la même chose dans les années 90, 95, 2000 en Meuse, avec des grandes manifestations, des pétitions qui ont recueilli 60 000 signatures pour demander un espèce de référendum local. Donc ça, c'était fin des années 90, début des années 2000, qui ont été jetées à la poubelle parce que, là, c'est la situation symétriquement inverse de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est un projet national, vous comprenez, donc on peut pas demander juste sur un périmètre régional de se consulter. Donc il y a quand même un truc où fondamentalement, personne ne peut accepter un tel projet de poubelle nucléaire. Les gens sont fondamentalement pas dupes. Voilà. Maintenant, il y a 15 ans d'implantation, de subventions, de propagande, aussi pédagogico-culturelle, avec des belles expositions. Par exemple, je peux donner un exemple. C'est-à-dire, au même moment où ils déboisent la forêt de manière éhontée illégale, l'Andra a dans ses locaux une exposition qui tourne depuis un an et demi qui s'appelle « Découverte en forêt », qui fait découvrir à petits et grands, de manière ravie, la joie des écosystèmes forestiers et les enjeux de sa préservation. C'est ça, l'Andra. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est à la fois... C'est une main de fer dans un gant de velours, mais un velours très épais, couturé de mille, voilà, de tout ce que je viens de dire, de la propagande, de la subvention,
la communication,
toute la recherche scientifique, toute la communication. Ils n'ont même pas de communication, ils ont ce qu'ils appellent une direction à l'intégration territoriale.
Wow.
C'est-à-dire que leur organisation même, L'ANDRA, c'est avant tout ce qui se passe ici. C'est avant d'être un laboratoire de recherche géologique, c'est un laboratoire de recherche sociale sur comment est-ce qu'on fait accepter, comment on fabrique de l'acceptabilité sociale pour quelque chose qui est instinctivement rejeté partout ailleurs. Comment on le fait ? Comment on fait accepter la pilule, la potion amère à des gens qui, de toute façon, n'en voudront pas ? Donc, on peut trouver, parmi tous ces outils, il y a tout ce que je viens de citer. Et en dernier lieu, il y a évidemment l'occupation et la répression policière. Mais ça, l'ANDRA veut surtout éviter d'en arriver là. Il ne veut surtout pas tomber dans la violence, la répression physique, etc. Peut-être mais on va y arriver avec ce qui se passe ici. On va, on va sans doute y arriver.
Ben, forcément. Et donc, vous vous êtes occupant actuellement. De quoi avez-vous besoin sur place ? Parce que vous avez lancé un appel qui me semble tout à fait pertinent.
On a besoin d'amour. On a besoin d'amour.
On vous en envoie plein, mais ça ne suffira pas.
Ouais, cool. On a besoin de plein de choses. On a besoin déjà de soutien et de présence de gens sur place qui passent voir même une journée, deux journées, une semaine dans le coin, voir à quoi ça ressemble, parce que c'est jamais la même chose, en fait. On se fait d'une certaine manière attraper quand on vient à Bure et qu'on se rend compte de l'identité du projet, des villages, à quoi ils ressemblent, toute cette implantation territoriale. De gens qui passent, on a besoin de différents matos, de trucs de base pour bouffer, on a besoin de structures pour continuer de s'abriter, de cordes solides pour pouvoir construire des choses dans les arbres. Il y a toute une liste de matériel qui est régulièrement actualisée. Le site de base pour s'informer, c'est vmc.camp, C-A-M-P.
Alors,
vmc.camp.
Vmc.
Ouais, point C-A-M-P. En fait, c'est le site du campement qu'on avait fait l'an dernier, en août, donc campement anticapitaliste et anti-autoritaire. Et en fait, on l'a conservé, avec le même, enfin, il devrait changer de nom, là, c'est une question de temps avant qu'il change un peu de nom. Et aujourd'hui, c'est plus un site relais, disons, de la lutte de terrain contre Bure, un peu à l'image de ce qu'est le site d'Al Nadir pour Notre-Dame-des-Landes, quoi.
D'accord. Et il y a moyen, donc, de venir, de s'installer. Comment on fait? On amène sa tente, on amène ses affaires.
Voilà. Donc, soyez le plus autonome possible niveau couchage. Donc, tente, ramener un peu de bouffe. Voilà, ramener tente, sac de couchage, matelas de sol, frontal, bottes, enfin tout le nécessaire un petit peu. Donc ça, c'est précisé sur le site.
D'accord.
Il y a des bases aussi d'accueil, hein, la maison de résistance et la poubelle nucléaire à Bure, donc une maison collective, une ancienne ruine agricole qui a été retapée depuis 10 ans et qui est un dortoir qui peut accueillir 50 personnes sans problème. Donc il y a une vraie belle maison qui donne aussi envie de rester. Donc il y a la forêt, l'occupation, il y a des zones aussi pour se poser un petit peu plus tranquillement. Ceux qui ont des camions qui peuvent aussi les poser là-bas, voilà.
D'accord.
La possibilité de venir. Ouais.
Donc on rappelle V comme Véronique, M comme Martine et C comme Caroline. Point.
C'est ça.
Camp comme un campement. C-A-M-P. Point.
C-A-M-P.
Point. Non, c'est tout. VC.camp. Et ça y est, il n'y a pas un point quelque chose après. Non, c'est VC.camp.
Non, c'est tout. VMC.camp.
C'est ouais. très zen. Ok, d'accord. Et on rappelle que vous serez là donc tout l'été et que tout l'été, tout un chacun peut passer. C'est le bon moment hein, pour prendre des vacances
après,
à Bure.
Après, c'est plutôt tout l'été. C'est faire des plans sur la comète dans le sens où là, par exemple, hier, donc ça fait une dizaine de jours qu'on occupe suite à cette belle manif, etc., construite avec différentes composantes.
Uh-huh.
C'est de rappeler quand même aussi sur place la texture un peu de ce qui vit sur le terrain. C'est-à-dire que depuis 10 jours, il y a construction de préaux, de cabanes, de barricades un petit peu partout. Il y a tous les soirs des discussions, des apéros, des grands repas collectifs où il y a des gens qui passent, que ce soit des habitants. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais croisé autant d'habitants et habitantes du village de Mandran-Barrois que depuis que j'occupe cette forêt. C'est-à-dire alors c'est proportionnel, bien sûr, mais sur un village de 130 habitants, il y a 10, 15 de gens, et dont des nouvelles personnes que j'avais jamais vues avant, qui sont venues par curiosité, et puis aussi parce que cette forêt, c'est un peu le dernier des communs. C'est une forêt communale à la base, avec des usages collectifs de promenades, d'affouages, de cueillettes, etc. Donc voilà, sur place, c'est un espèce de mélange sympa entre, disons, des occupants qui sont là jour et nuit, paysans du coin, habitants, associations, et un mélange qui tient bien et qui est assez enthousiasmant. Et c'est justement pour éviter cette possibilité d'un point de ralliement et d'une montée en puissance d'un mouvement contre la poubelle nucléaire que là, l'ANDRA passe un peu à la contre-attaque. Hier, à 9h30, elle a envoyé ses chiens de garde, ses vigiles, les gendarmes et un huissier nous déposer une ordonnance de requête pour l'expulsion.
Mmh.
Voilà, avec un jugement du juge du tribunal administratif de Bar-le-Duc.
Mmh.
Il nous disait, maintenant on doit partir là. Enfin, depuis qu'elle a été déposée, en soi, l'ordre nous a été intimé de partir. Et donc hier, toute la journée, c'était une préparation. On se préparait à une possible évacuation ce matin. Mmh. Et là, peut-être que demain soir, ça va arriver. Donc la situation, elle est claire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien sûr en situation de fragilité et de précarité sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on ne se laissera sûrement pas faire et que s'ils nous évacuent, en fait, on va revenir. C'est-à-dire que dès hier, il y a un appel à manifestation de réoccupation qui a été lancé pour occuper le samedi qui suivrait une éventuelle expulsion. Quoi.
Un peu comme Sorazade du Testé, s'il nous expulse, on occupera un peu plus loin, c'est pas grave.
Là, c'est même plutôt dire s'il nous expulse, le samedi suivant, on revient et on occupe au même endroit. Enfin, on n'a pas encore les modalités exactes, mais c'est juste de dire, en fait, là, s'il nous expulse, ce serait juste une étape. On est vraiment décidé à bloquer ces travaux autant de temps qu'il faudra et bloquer le projet CIGEO sur le terrain, puisque de toute façon, dans le Parlement, il va passer. Là, le 11 juillet, ils vont essayer de discuter une loi qui autoriserait le début de ce projet à l'Assemblée nationale, et on ne fait absolument aucune illusion. Et c'est uniquement avec un vrai rapport de force physique sur le terrain qu'on peut les bloquer. Donc, retenir que voilà, c'est le bon moment pour passer, le plus tôt sera le mieux, pour grossir les troupes ici, pour résister plus efficacement, pour construire une vraie opposition sur le terrain. Mais voilà, en tout cas, on est décidé à bloquer ces travaux autant de temps qu'il faudra. Et ça commence par cet été et ça ira sans doute beaucoup plus loin.
Merci mille fois, Michel. Merci à tous les occupants et occupantes et à tous les gens qui luttent contre cette poubelle nucléaire CIGEO qui se fait avec l'argent de tous les contribuables français, rappelons-le quand même. D'accord. Et merci mille fois. Donc, on reste au courant. Envoyez-nous des infos dès que vous en avez. Hein, ne lâchez rien, on lâche rien.
Merci. Ciao, ciao.
Ciao. Merci. Bye bye. C'était Les Petits Papiers sur Radio Canal Sud. Donc on finissait avec Occupy la Meuse. Abur appelle à blocage et occupation tout l'été contre le début des travaux de la poubelle nucléaire CIGEO. On rappelle la date qui vient de dire, Michel, le 11 juillet. Regardez bien ça, tout un chacun peut agir partout de côté de chez lui. J'oubliais, très important, demain, jeudi 30, rendez-vous tout le monde au Palais de Justice à partir de 13h. Soutenir les copains de BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Oui, l'apartheid en Israël, il est temps effectivement de le dénoncer et de défendre les copains et camarades qui s'insurgent par des moyens, somme toute très pacifiques et en même temps qui font peur aux colonisateurs. C'était Les Petits Papiers donc sur Canal Sud 92.2. La suite de vos émissions, c'est le magazine. Voilà, rendez-vous demain à jeudi 30 à 13h, Palais de Justice à Toulouse. Bye bye.